Merci d'être là sur les ondes de BPM Sport, que ce soit à Montréal, Québec ou Gatineau. YouTube, application mobile, Alex Langto, l'IPaiement avec vous jusqu'à 18h. Et très heureux d'aller rejoindre Olivier Brett. Oli, on en a fait du chemin, hein? Ça fait quoi? 4 ans que je travaille ici à la station et toi, tu as été le témoin de mes débuts. Quand j'ai mis les pieds ici à la mise en onde derrière la console pour les matchs du CF Montréal où tu étais à la description à l'époque, je vais te rappeler un malheureux souvenir, mais dont aujourd'hui on en rit. Est-ce que t'as encore mal à la tête de la fois où je t'ai complètement cassé les oreilles?
Non, je m'en suis remis. Ça a été l'avant-match, honnêtement. Là, j'ai dû faire quelques milliers de matchs depuis le début de ma carrière dans les médias à couvrir le soccer. C'était de loin, de très très loin, le plus court avant-match que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai été renvoyé en pause comme si j'étais un genre de « beam me up, Scotty ». c'est ça, t'avais écourté en accrochant un piton. Je pense qu'on peut le dire comme ça.
Ouais, c'est littéralement ça.
Notre avant-match. Toi, je veux pas rentrer dans trop de détails, mais toi, t'es-tu remis de ce qui s'est passé après ou?
Ben absolument. On peut rentrer dans les détails. Regarde, mon nez coulait à plein feu de liquide rouge, du stress que j'avais vécu pendant la journée. Quelle catastrophe.
Écoute, on va en profiter là, parce que c'est une des très, très, très drôles anecdotes de ma carrière. Toi, tu as été lancé. C'était un match qui était un match pont entre un match de série du Rocket de Laval qui était présenté sur nos ondes avec un grand total de 0 minute de pause entre les deux. Il y avait une pause, puis le match du Rocket se terminait. Nous, on commençait un avant-match qui était écourté, qui était un peu parachuté parce que on devait rapidement essayer de mettre la table avant de commencer la rencontre. Toi, tu avais, j'allais dire, très peu d'expérience. C'était la première fois que tu le faisais.
Oui, c'était dans mes premières diffusions. Là.
Exactement. Techniquement, c'est quand même un setup assez compliqué. Bref, on passe à travers cet avant-match écourté, un peu turbulent. Et là, juste pour expliquer, ma position de description te faisait dos.
Ouais.
Et tout d'un coup, je me retourne pendant la description, puis je fais ce qu'on appelle en bon français un « double take ». Parce que là, là, il y a Alex derrière moi qui est rendu avec un coton dans le nez. Je me demande ce qui se passe, mais on est dans le milieu de la description. Je peux pas arrêter. Mais à la mi-temps, je me retourne et je me rends compte que tu as littéralement saigné du nez sur la console en studio. Je vais m'en rappeler très longtemps.
Ah oui, puis le pire dans tout ça, c'est que techniquement, ça avait été une catastrophe. Il avait fallu installer l'équipement tellement rapidement que toi, ton micro était dans le tapis et tes écouteurs... Non, c'est l'inverse. Ton micro très faible et les écouteurs dans le tapis. Et Raph Doucet, qui était ici à l'époque aussi, lui avait complètement l'inverse. Donc, le micro dans le tapis et les écouteurs ultra faibles. Donc, on n'entendait pas la différence en studio. Même moi, derrière la console, ça sonnait tout croche en onde. C'était ça les débuts. Écoute, on a pour tout ça pour dire qu'on en a fait du chemin, Oli, puis content d'être là aujourd'hui puis pouvoir te jaser du CF Montréal.
C'est super apprécié. Juste pour conclure là-dessus, je pense que pour que les gens comprennent, puis que ça apporte un peu de valeur à l'expérience de nos auditeurs au lieu de juste replonger dans nos bons souvenirs d'avoir travaillé ensemble à la description. Oli Paiement, merci d'être là, dans le fond. C'est ça que je veux dire, parce que tu sais, quand on sort en onde, ça se passe bien, les gens ont l'impression que tout est si facile, puis on fait juste jaser, mais il y a vraiment toute une machine humaine ou littéralement une machine avec lesquelles on travaille, puis ça nous fait bien paraître, mais c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point c'est complexe. Donc, à tous ceux qui, tout au long de l'année, à BPM ou ailleurs, travaillent dans l'ombre comme ça pour faire bien fonctionner les choses, bien nous faire paraître. Merci beaucoup.
100%. Merci, Oli, de le souligner. Je veux te parler, ça a bougé un peu chez le CF Montréal aujourd'hui. Belle prolongation de contrat pour Efrain Morales. 3 ans de plus avec le CF Montréal, lui qui avait été acquis du Atlanta United le 23 juillet dernier. Il a marqué face à Toluca au cours des derniers jours. Est-ce que pour toi, c'est mérité cette prolongation-là, Oli?
C'est mérité, c'était probablement prémédité aussi. Donc, j'ai le luxe, si on veut, d'avoir vu 2 matchs d'Efraïn Morales dans un maillot montréalais, 2 matchs qui assurent rien pour la suite. Évidemment, 2 rencontres, ça garantit pas grand-chose, mais c'est vraiment un gars qui s'est installé en patron. Dans sa présence, dans sa prestance en défense centrale sans jamais s'être prouvé dans un uniforme montréalais, ça me fait beaucoup penser à Kamal Miller à l'époque. Miller qui était arrivé, je me rappelle, dans un contexte où il y avait pas une reconstruction, là, on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais tu sentais qu'il y avait beaucoup de joueurs qui s'en venaient, puis c'était un genre de renouveau après la pandémie, et Miller avait vraiment assumé sa place au camp d'entraînement. Tu le sentais très vocal. Efraïm Morales, c'est la même chose, mais ça s'est pas vraiment passé à l'entraînement, c'était directement en match. Donc oui, c'est mérité. Je me souviens aussi, rappelle-toi la lettre qui a été publiée par le CF Montréal il y a deux semaines. Oui. Ça avait été accompagné d'une vidéo aussi qui mettait en lumière le travail de Lucas Saputo, et il y avait un appel téléphonique dans cette vidéo-là où tu entendais Lucas Saputo dire on lui a proposé une prolongation de contrat. À ce moment-là, je me demandais de qui on parlait. Ça confirme pas à 100% qu'on parlait d'Efraïm Morales, mais Morales cadre justement dans ce genre de catégorie-là de joueurs qui, je veux pas dire vivote, mais à Atlanta, on n'était pas certain. Est-ce qu'on met tous nos œufs dans le panier Morales, oui ou non? Finalement, le CF Montréal est arrivé, a fait une offre intéressante pour Atlanta, mais il faut aussi que tu rendes ça intéressant pour le joueur. Au-delà de lui dire, t'es un jeune en qui on croit, à qui on va donner des minutes, ben, de t'engager comme ça, parce que t'en parlais tout à l'heure, c'est substantiel. C'est jusqu'en 2028, ce contrat-là. Ben, c'est le genre de cocktail parfait, de tempête parfaite, si on veut, pour convaincre des gars de la trempe de Morales de signer à Montréal.
Je trouve ça intéressant, un, parce que ça va peut-être redonner espoir aux fans de voir qu'on prolonge de jeunes joueurs qui pourraient rester ici longtemps. J'aime ta comparaison avec Kamal Miller, qui a rendu aussi de fiers services au CF Montréal, mais j'aime encore plus le lien que tu arrives à faire avec la vidéo qui a été postée avec la lettre d'excuses aux partisans, de promesses de faire mieux au fil des années. Superbe clin d'œil, puis je serais vraiment curieux qu'on pose la question dans un des prochains points de presse, à savoir si c'est vraiment à Morales qu'on avait proposé cette prolongation-là de contrat. Oli, je vois le temps filer déjà.
Vas-y, vas-y.
Mais la Coupe des Ligues est terminée. Comment t'as trouvé le CF Montréal dans ce tournoi-là? On s'entend, là, ils sont éliminés, c'est terminé avec la défaite de 2-1 d'hier, mais quand même un tournoi auquel le CF Montréal aurait pu peut-être faire mieux.
Peut-être faire mieux. Il aurait certainement pu être moins bon aussi. Donc, je te dirais que je décrirais ce tournoi-là comme étant compétitif. Et avant l'arrivée de cette Coupe des Ligues, tu joues contre des clubs mexicains. C'est le nouveau format, hein? C'est 18 équipes mexicaines, 18 équipes de MLS, et tu as seulement 4 équipes qui passent au prochain tour. Donc, tu pouvais pas exclusivement baser ton opinion, que ce soit avant ou après l'élimination de l'équipe, sur ton passage au prochain tour, parce que tu as des très bonnes équipes. Hier, je faisais la description du match du Crew de Columbus face à León. Crew de Columbus de Wilfrid Nancy, c'est une des très bonnes équipes de la Ligue, mais ils sont pas certains de passer au prochain tour. Donc, ils pourraient, comme le CF Montréal, être éliminés. Pour Montréal, c'est moins surprenant de les voir éliminés, mais ce qui est agréable, c'est de voir qu'ils ont été compétitifs. Même hier, au stade Saputo, en fin de rencontre, pour ceux qui étaient là au stade, c'était tout un spectacle avec une équipe qui était dans l'adversité pendant une grosse période de la rencontre, surtout après l'expulsion de Joel Waterman, mais qui est resté accroché. Et de voir qu'on reste accroché dans un scénario aussi pénible que celui de 2025, ça, c'est une bonne nouvelle, surtout d'une perspective de Marco Donadel, qui doit au moins y avoir la conclusion que ben, mon message continue de passer parce que les gars continuer à travailler fort et continuer à offrir un jeu qui est quand même de bonne qualité.
C'est la première fois qu'on pouvait voir Thomas Gilliers dans les buts. Comment tu l'as trouvé hier soir?
J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnalité. Et ça, je trouve qu'il y a un parallèle à faire. On a enregistré un épisode d'Au fond des filets qui sera disponible d'ailleurs un peu plus tard aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la Commission athlétique. Et je parlais de ça avec mon collègue Frédéric Laure. C'est une personnalité qui me fait un peu penser à celle de Maxime Crépeau, qu'on connaît maintenant, gardien de l'équipe nationale, gardien à Portland, qui est passé par le LAFC, a été champion de MLS Cup et passé par Vancouver aussi. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ici, on lui a jamais donné sa chance. Mais il y avait ce côté-là, même lorsqu'il était plus jeune, parce que Thomas Gilliers a 21 ans seulement, il y a une dizaine d'années qui séparent les deux, il y a un côté gambler. C'est un gars qui va garantir faire des gaffes, mais c'est un gars qui va apporter, je pense, lorsqu'on va lui donner des opportunités, puis ça, c'est une grande question, on va lui en donner combien d'ici la fin de la saison? Il reste 9 matchs de MLS seulement. C'est un gars qui va apporter du oomph. Est-ce que c'est une confiance déraisonné, ben, peut-être que des fois ce sera le cas parce que je pense que c'est un gars qui va prendre des risques, qui va être parieur un peu, mais tu sens qu'il apporte quelque chose. C'était son premier match, il a peut-être été nerveux un petit peu en début de rencontre, mais stopper un penalty, fait quelques gros arrêts et surtout s'est comporté comme le chef d'une brigade défensive qui est la sienne depuis un match seulement. Donc ça, c'est très encourageant. Ce que j'ai très, très hâte de voir, c'est quelle utilisation on va faire des gardiens d'ici la fin de la saison.
Ta comparaison avec Max Crépeau m'a fait un peu écarquiller les yeux. Tu le compares vraiment sur la personnalité et non pas dans le type de gardien qu'il est. Parce que si tu me le compares au type de gardien, moi, honnêtement, je suis excité, là.
Non, mais ça, on va se donner du temps parce que déjà, en termes de stature, tu sais, Maxime est un gars plus costaud, même si Gillier est un grand gardien. Non, c'est vraiment en termes de personnalité entre les deux oreilles. Tu sais, okay. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Maxime Crépeau à Au fond des filets, notre balado, lorsqu'il est passé en ville pendant le temps des fêtes. Puis, tu sais, il me le disait lui-même, moi, je suis un parieur. Souviens-toi, sa fracture de la jambe en finale de MLS Cup il y a quelques années. Maxime, s'il parie pas, il sort pas. S'il pense à lui ou il est davantage conservateur, il sort pas à 30-40 mètres de son but pour faire un tac qui, au final, sauve son équipe, mais lui casse la jambe et le prive de la Coupe du Monde avec le Canada en 2022. Donc, cette idée-là, puis tous les gardiens sont pas pareils, là, mais d'un gars qui va prendre des risques et qui est capable de se mettre en danger en espérant que ça fonctionne, que ça rapporte gros, c'est ce que, sur les 90 premières minutes, là, mais c'est ce que j'ai vu avec Julien hier.
Intéressant. Merci, Oli, pour cette analyse de Gillier. On passe du gardien vers l'attaque. Prince Owusu qui marque encore, il répond solidement aux attentes. C'est déjà un 11e but pour lui.
Ah, c'est le MVP et même pas proche. Je me souviens, au tiers de la saison, je discutais avec Frédéric Laure, encore une fois, pour citer notre podcast et le plugger sans gêne pour une troisième fois depuis qu'on a commencé à
parler. Vas-y, garde-toi, c'est mais, là pour ça.
Non, mais au tiers de la saison, on était, Alex, incapable de trouver un MVP. On n'était pas capable, on le donnait par défaut. Je me souviens même plus, je pense que c'était à Samuel Piette qu'on le donnait un peu par défaut parce qu'on disait sans lui, t'es en difficulté. Et là, c'est même pas proche. Il y a Prince Owusu. Ça veut pas dire que les autres sont tous mauvais, là, loin de là. Mais il y a Prince Owusu et il y a les autres. Mm-hmm. Sachant que un des gros sujets de l'entre-saison après la campagne 2024, c'était le départ de Joseph Martinez. On se demandait qui serait capable de prendre le relais. Ensuite, le gros sujet en attaque, ça a été la blessure à Giacomo Vriani, qui n'est pas la même depuis le début de la saison, mais il est constamment blessé.
Ça s'enchaîne.
Et c'était ton seul... Ben exactement, c'était ton seul joueur désigné. Puis on se retournait vers un Prince Owusu qui, au printemps, se faisait huer au stade Saputo. Wow. Et là, le gars est pas capable d'arrêter de marquer. Vraiment, chapeau à Owusu, qui l'a fait l'année passée dans une très mauvaise équipe de Toronto, qui le fait cette année dans des conditions extrêmement difficiles aussi avec Montréal.
On va se croiser les doigts qu'il demeure ici, qu'on décide de le garder et que cette séquence-là se poursuive. Parce que sans Owusu cette saison, imagine à quel point ça pourrait être pénible. Déjà que c'est pas évident à Montréal cette année avec le CF. Sans Prince, ce serait une totale catastrophe.
T'as raison, mais le recrutement va bien au-delà. Même si Prince Owusu était pour partir, puis t'allais chercher deux attaquants pour le remplacer, parce qu'éventuellement, moi, je pense qu'il faut que tu remplaces Vriani, c'est clair. Tu peux pas repartir sur une autre année l'an prochain en espérant que ça aille mieux que cette année où t'as pas été capable de l'utiliser. Les prochaines semaines, ça se termine à la fin du mois, la fenêtre des transferts estivales pour le CF Montréal. La lettre, on y revient pour une autre fois. Mais il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Puis c'est clair que ta priorité en ce moment, est-ce que c'est un attaquant de pointe à très, très court terme? Non, parce que Prince Owusu est en feu. Éventuellement, est-ce que Prince Owusu a besoin d'aide ou de compétition? Pour moi, la réponse est oui, mais c'est surtout derrière et autour d'Owusu que tu as besoin de l'épauler. Et c'est ça qu'on va suivre avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines en espérant qu'on aille chercher un gars qui est capable immédiatement pour la fin de saison d'aider cette équipe-là et surtout qu'il soit présent pour le début du camp d'entraînement l'an prochain pour attaquer une saison 2026, une saison de Coupe du Monde en Amérique du Nord qui va être super importante pour le CF Montréal.
Olivier, on va terminer avec ça, mais la Lynx Cup est un peu arrivée comme un vent de fraîcheur dans cette saison difficile où tout était permis, on pouvait se permettre un peu de rêver pour le CF, d'avoir un aspect compétitif, de pouvoir rentrer dans un moment où on va pouvoir compétitionner puis espérer avancer. Là, c'est terminé. Le CF doit retourner au travail, mais en MLS où presque plus rien n'est à jouer dans leur cas, on peut presque dire qu'ils sont déjà éliminés. Comment on motive les troupes? Est-ce que ça va être difficile de se motiver en vue du match de samedi contre l'Atlanta United?
Bon, première chose, je te comprends de rester précautionneux et de pas éliminer le CF Montréal. Mais le CF Montréal est éliminé des séries. Là. Appeler un chat. Là,
c'est fait.
Ça arrive. Non, mais ça arrivera pas. Je vois pas, moi, du scénario où tu peux, avec les ressources que tu as en ce moment, ça peut arriver. La chose qui m'a beaucoup, beaucoup et agréablement surpris hier, c'est de voir à quel point les gars, je te le disais tantôt, sont engagés. Tu as des Ennadi Sinchuk qui a été acheté à fort prix au début de l'année. Lui, là, il a été blessé presque toute la saison. Il y a un statement à faire en vue de l'an prochain. Vous êtes allé me chercher et je suis capable de livrer la marchandise. Les Bryce Duke, les Caden Clark, ils savent que toi et moi, on est en train de discuter d'un milieu offensif qui devrait s'en venir pour améliorer cette équipe-là. Mmh. Est-ce qu'ils sont en train de jouer leur futur à Montréal? Peut-être même leur futur en MLS comme des joueurs de premier plan. C'est ça qui va être fascinant à observer et c'est la raison pour laquelle je pense pas que ça va être pour les joueurs que tu vas utiliser. Que Marco Donadel va bien les choisir. Je pense pas que ce sera très difficile de te motiver. Après, est-ce qu'il y a des gars qui seront tout simplement plus là? On a une grosse discussion avec Frédéric Laure aujourd'hui au fond des filets sur Joel Waterman, qui pour moi a fait une erreur monumentale à plein d'égards, sportivement, humainement, en termes de leadership, hier en se faisant expulser. Ça, c'est des trucs avec lesquels Marco Donadel va avoir à négocier, pas juste pour aller chercher des résultats pour le reste de la saison, mais pour envoyer un message et pour jeter les bases de la saison 2026. Et pour cette raison-là, que ce soit pour les joueurs qui sont dans le vestiaire ou pour nous qui regardons de l'extérieur pour voir qui va monter à la surface ou qui va s'éliminer de lui-même, les 9 derniers matchs en MLS vont être super intéressants.
Allez, Brett, merci beaucoup de t'être joint à moi aujourd'hui. Très content qu'on ait pu collaborer ensemble en nombre pour une première fois. C'est un vrai plaisir.
Ça fait plaisir. Salut, bonne journée.
Salut Ali. Bye bye.